On va donc se consacrer maintenant à ce panel intitulé Violence et non-violence au féminin, avec trois invités que je remercie d'avance d'être là. On a décidé dans les couloirs, juste présentement, d'un mode opératoire avec un ordre de passage qui ne serait pas celui qui est annoncé sur le slide, par souci de cohérence interne, de déroulement des débats. Et donc, on va commencer avec Raphaëlle Raffin, qui est coordinatrice de programme aux Nations Unies Maghreb depuis 2014. Et elle va nous parler de manière un peu plus globale du cadre normatif des résolutions en matière genre. 5 minutes, donc 7 minutes.
Bonjour, bonjour et à toutes et à tous. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à bien sûr la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et à la chaire Culture, Société et Faits Religieux de l'Université internationale de Rabat, non seulement pour l'organisation de ce colloque, mais surtout d'avoir prévu un panel sur l'intégration du genre dans la recherche et dans ces questions de violence et non-violence, qui sont, j'espère que vous serez convaincus à l'issue de ce panel, si vous ne l'êtes pas encore, assez nécessaire. Donc moi, je m'exprime au nom de l'ONU Femmes. L'ONU Femmes, c'est l'entité des Nations Unies pour l'égalité homme-femme et l'autonomisation des femmes, qui travaille donc sur notamment la prévention de l'extrémisme, la construction de la paix durable et inclusive. Donc je le disais, ce panel est nécessaire car l'intégration de l'approche genre au travail d'analyse permet de se détacher des stéréotypes fondés sur le genre et de comprendre que ni les femmes, ni les jeunes, ni les hommes ne sont des groupes homogènes. Cette approche permet donc de comprendre la complexité et la diversité que les femmes en particulier peuvent jouer de chaque côté des conflits, en amont et en aval également. Donc comprendre ces différences pourra contribuer ensuite à des politiques et programmes de prévention que nous accompagnons et qui seront illustrés par mes deux co-intervenantes, des programmes de réintégration aussi et de réhabilitation qui soient plus efficaces et contextualisés. Donc pour vous donner un exemple pour illustrer cette nécessité, nous avons appuyé l'an dernier une étude en Tunisie avec Oxfam pour tenter de répondre à la question comment les constructions sociales de masculinité et de féminité au sein de la société tunisienne influencent les phénomènes d'adhésion à l'extrémisme violent. C'était de voir un peu comment chacun arrivait à cet extrémisme violent. Et l'étude s'est fondée sur une analyse psychosociale pour interroger les stéréotypes essentialistes qui voudraient que les femmes ne soient que des soutiens passifs et non violents, ou qu'elles incarnent des solutions miracles aux causes structurelles de la violence. Certains témoignages qui ont été repris dans cette étude montrent que les femmes peuvent occuper des rôles d'influence importants au sein des groupes extrémistes violents. Ça a révélé comme ça que certaines cellules mixtes hommes-femmes étaient dirigées par des femmes leaders, des cellules fondamentalistes. Un autre rapport qui a été produit l'an dernier par le Bureau ONU Femmes pour les pays arabes, qui couvre donc toute la région Afrique du Nord, MENA, a analysé, elle, les arguments et les messages utilisés par Daesh pour recruter les hommes et les femmes séparément et pour promouvoir des normes de gouvernance strictes basées sur le genre dans le territoire qu'ils contrôlaient alors. Ce rapport a montré que Daesh parlait aux hommes de pouvoir et de dominance et que parallèlement, il donnait aux femmes une forte autonomie, soi-disant, en tout cas dans les messages de recrutement, en leur disant de voyager seules pour les rejoindre. Mais une fois sur place, ces femmes voyaient leur liberté de se déplacer seules, évidemment réduite à néant, ainsi que leurs droits et leurs libertés de manière plus générale. Certains témoignages ont aussi montré que les femmes occupaient plusieurs rôles au sein des organisations terroristes, en participant activement, par exemple, dans le recrutement, dans les logistiques et même dans les attaques. Et pourtant, les stéréotypes et préjugés basés sur le genre influencent toujours aujourd'hui les politiques et les programmes qui sont mis en œuvre pour contrer et prévenir l'extrémisme violent. Elles ne prennent donc pas en compte cette complexité de rôle et d'influence que peuvent avoir les femmes. Ça se note aussi dans les programmes de réhabilitation et de réintégration qui sont actuellement en place, où les femmes sont majoritairement ignorées par les politiques et programmes et marginalisées par les communautés. Donc, ces récentes analyses ont permis de mettre en lumière la complexité du rôle des femmes dans les phénomènes violents. En effet, bien que les terroristes et les extrémistes violents prennent de plus en plus les femmes et les droits des femmes pour cible dans le cadre de leurs tactiques terroristes, Parallèlement, néanmoins, certaines jeunes filles et des femmes décident volontairement de rejoindre ces groupes extrémistes violents. Les chiffres statistiques ont montré que parmi les plus de 40 000 personnes issues de plus de 80 pays qui ont rejoint Daesh en Irak et en Syrie, 13% étaient des femmes et 12% des enfants. Les chiffres montrent aussi que parmi les 7366 combattants terroristes étrangers qui sont rentrés dans leur pays d'origine, seulement 4% sont des femmes et 17% des mineurs. Donc on voit que le retour aussi montre une différence entre hommes et femmes. Donc ce lien entre droits des femmes, égalité, construction de la paix fait l'objet, comme vous le savez, d'une attention mondiale croissante. Dès 2000, donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la fameuse résolution de référence 1325 qui a créé le cadre juridique international de promotion de l'égalité de genre et donné le mandat aux Nations Unies et notamment à ONU Femmes d'intégrer les femmes dans les enjeux de paix et de sécurité au niveau à la fois local, régional et mondial. Donc la résolution, elle promeut une approche de promotion de la paix autour de quatre piliers: la participation, la protection, l'institutionnalisation du genre et la prévention. Par la suite, le Conseil de sécurité a précisé l'application de cette résolution et de ses dispositions et a précisé qu'elle s'appliquait aussi aux situations de conflits non institutionnels et au terrorisme. Donc, notamment, ce sont les résolutions 21-22 de 2013 et 22-42 de 2015. La dernière résolution, 22-42, à noter les liens entre le programme pour les femmes, la paix et la sécurité et le travail des États membres et de l'ONU pour prévenir l'extrémisme violent, pour créer vraiment un cadre complet et compréhensif. Et donc cette intégration des femmes au processus de construction de la paix, une fois qu'on est sorti de cet extrémisme violent ou pour en sortir, est important. Et ça aussi, ça a été démontré par une étude publiée en 2015 sur la mise en œuvre de cette résolution 1325, qui a démontré que les femmes constituent une ressource essentielle pour la promotion de la paix et de la stabilité, et démontré que lorsque les femmes influencent les négociations de paix, les processus sont beaucoup plus susceptibles d'aboutir à des accords et que ces accords sont plus durables. Donc, par exemple, lorsque les femmes participent au processus de paix, la probabilité du maintien en place des accords sur une période d'au moins 2 ans augmente de 20%, et celle pour qu'un accord reste en place pendant au moins 15 ans augmente de 25%. Il est donc crucial de promouvoir et soutenir la participation des femmes et des organisations de la société civile au développement et à la mise en œuvre des stratégies et mesures de lutte contre l'extrémisme violent. En Tunisie, par exemple, nous avons ainsi appuyé le gouvernement dans le développement du plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325, dont un axe porte spécifiquement sur la promotion d'une culture de l'égalité, donc un changement de mentalité et le développement d'un nouvel système, d'une nouvelle construction sociale. Pour conclure, je dirais que ça aussi doit être accompagné de programmes d'accompagnement, et notamment de programmes d'accompagnement spécifiques pour les femmes qui reviennent soit qui reviennent à un engagement volontaire, soit qui ont été victimes de terrorisme ou d'extrémisme violent, parce que celles qui reviennent sont très souvent exclues, stigmatisées, traumatisées au sein de leur société. Elles font l'objet d'une victimisation secondaire, donc à leur retour, ou après avoir été victimes, à laquelle les services de prise en charge doivent donc apporter une réponse adaptée à leurs besoins spécifiques pour leur garantir accès à la justice, à la protection et à l'accompagnement vers la réinsertion.
Merci. Donc nous allons maintenant passer à Ndey Maritiam, qui va nous présenter, nous parler d'une expérience, une expérimentation locale en Casamance, en vue de construire la paix. Vous êtes la présidente de l'association Plateforme des femmes pour la paix en Casamance.
Merci. Merci, madame la modératrice. Permettez-moi de remercier l'Université internationale de Rabat et la Fondation Maison des sciences de l'homme qui me donnent l'opportunité de partager mon expérience de femme de terrain, de femme actrice dans la recherche de la paix. Ma région, la Casamance, se situe au sud du Sénégal. Vous avez là la carte du Sénégal. Malheureusement, elle n'apparaît pas complètement. C'est la partie en rouge qui est donc la Casamance. qui se situe complètement au sud du Sénégal, qui a pour frontière la Guinée-Bissau au sud, et la Gambie, la République de Gambie, qui la sépare du reste du Sénégal. Donc une région qui est enclavée et qui vit un conflit armé vieux de 37 ans. Ce conflit armé oppose l'État central, l'État du Sénégal, au mouvement des forces démocratiques de la Casamance qui réclame son indépendance. Ce conflit est faiblement médiatisé, mais qui a des conséquences extrêmement graves sur les populations, allant de la dislocation du tissu social au déplacement des populations, 17 000 réfugiés, 25 000 personnes déplacées, la destruction du tissu social et culturel, avec la remise en cause des valeurs, de certaines valeurs, la paupérisation des populations, la précarisation accrue des couches sociales. L'histoire de cette communauté casamançaise atteste que les femmes ont de tout temps joué un rôle prépondérant dans la gestion et le règlement des conflits. Et avec le conflit en Casamance, les femmes ont été des actrices majeures à la prise de résolution pour aller à l'indépendance jusqu'au processus, jusqu'à l'évolution, c'est-à-dire le processus de paix. Et dans notre communication, nous allons essayer de parler d'abord du leadership des femmes traditionnelles et ensuite l'expérience des femmes, les femmes traditionnelles. Les femmes traditionnelles. Au sein de certaines communautés de la Sénégambie, les femmes traditionnelles ont toujours joué un rôle très important dans les différentes activités de leur communauté. Ces rôles les ont amenées à assumer les mêmes responsabilités que les hommes, et même plus. Dans la majorité des communautés casamançaises, les femmes ont été au rendez-vous de tous les défis auxquels il fallait faire face, qu'il s'agisse des défis naturels comme l'inondation, la sécheresse, la famine, ou des défis venant de l'homme lui-même, la guerre, l'incendie. La socialisation des femmes se fait par les aînés, qui leur fournissent des aptitudes de savoir-faire, de savoir-être, et qui leur permet de se prendre en charge et de prendre également la communauté en charge. Et en effet, l'initiation des femmes se fait dans le bois sacré. Et à l'issue de cette session, chaque génération se sent responsable et a des devoirs vis-à-vis de la communauté et a vis-à-vis également des jeunes de leur tranche d'âge. Au niveau de ces classes d'âge, les femmes organisent parfois des sessions de retraite. Et au cours de ces sessions de retraite, des décisions sont prises et ces décisions sont appliquées à toute la communauté, les hommes et les femmes. Et ce statut de femme de bois sacré fait que les hommes, avant d'aller à la guerre, recueillent la vie des femmes et ils sont obligés de rendre compte à leur retour de la guerre. C'est dans ce contexte-là qu'il faut analyser l'implication des femmes du bois sacré au lendemain de la marche du 26 décembre 82 qui marque la naissance du conflit en Casamance. Les femmes étaient au premier rang de cette marche. En effet, les femmes ont soutenu les combattants du mouvement des forces démocratiques de Casamance dès leurs premières heures en leur donnant leur bénédiction ou en s'occupant également de leur préparation mystique. Et d'autres se sont impliqués dans le réseau de l'économie du MFDC. Elles pensaient que le MFDC leur offrait le cadre où elles pourraient réclamer une justice sociale, plus d'équité dans le traitement réservé aux différentes régions du Sénégal. Également, la fin d'une injustice qui se développait dans la gestion du foncier au niveau de la commune de Ziguinchor. certaines femmes avaient pris résolument le chemin de la guerre en adhérant au droit à l'indépendance de la Casamance. Le soutien de ces femmes s'est manifesté par un camp qu'elles ont implanté à côté d'un camp de combattants, un camp de combattants qu'on appelle Diakhaï 1, et à côté de ce camp de combattants, des femmes ont installé également leur camp qu'on appelait Diakhaï 2. Et ces femmes apportaient aux combattants leur soutien en leur faisant leur linge, en leur faisant la cuisine et également à les accompagner par des prières pour aller à la guerre. Mais tout ceci, elles l'ont fait sans savoir ou tenir en compte les implications qu'une lutte armée peut créer et que les souffrances que génère une lutte armée. Et avec ce conflit, il y a eu beaucoup de mal, de torts ont eu lieu et ce sont surtout les femmes qui ont subi les conséquences. Une décennie après, c'est-à-dire après 82, les femmes ont pu constater que leur situation, leur statut est désacralisé, qu'elles n'étaient pas épargnées du tout et elles finiront et qu'elles ont subi des viols, l'assassinat et d'autres actes de barbarie de la part de toutes les forces armées, c'est-à-dire aussi bien des combattants que de l'armée sénégalaise. Et face à cette mer silencieuse de souffrance, les organisations de femmes se sont levées et ont pris le chemin de la paix. Les femmes n'ont pas attendu, bien sûr, la résolution 1325 pour prendre ce chemin de la paix, ou bien qu'elles soient impliquées en qualité de médiatrice ou de facilitatrice. Elles l'ont fait parce qu'elles ont souffert de ce conflit armé-là. Ainsi, si on veut partager l'expérience des femmes de la plateforme, plusieurs expériences allant des veillées de prière et des marches, les rencontres avec les autorités étatiques, les tables de paix que nous avons organisées. On a organisé une table de paix où on a mis face à face l'État du Sénégal qui était représenté par un comité ad hoc mis en place par le président de la République et le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Ici, les femmes de la Casamance se sont déplacées pour venir à Dakar et montrer à leurs sœurs de toutes les autres régions du Sénégal que la Casamance n'a pas un conflit, c'est le Sénégal qui a un conflit. C'est un conflit qui sévit en Casamance et que par conséquent, toutes les femmes devraient se mettre ensemble pour s'impliquer et trouver rapidement une solution à ce conflit armé-là, vieux de 37 ans. Et ici donc, nous avons organisé une marche pour dénoncer des abus sexuels parce que des jeunes filles avaient été attaquées, enlevées et ont subi des violences et elles ont été abusées. Les viols et les abus sexuels se répétaient, c'était devenu récurrent en Casamance. Et nous avons organisé également une rencontre avec les femmes parlementaires parce que pour nous, les femmes élues doivent également s'impliquer dans la recherche de la paix. Et ici, donc, nous avons rencontré les femmes parlementaires. Mais pour conclure, je voudrais simplement dire que malgré toutes ces actions audacieuses que les femmes de la Casamance ont menées, jusque-là, leur implication dans la recherche de la paix n'est pas encore évidente. Elles ne sont pas prises en compte, comme aucune organisation de la société civile du reste n'est impliquée dans la résolution du conflit en Casamance. Et également que la résolution 1325 est limitée également dans son explication dans la recherche de la paix en Casamance. Merci.
Donc, on va passer à la présentation de Anne-Marie Théwissen, qui est au Centre de consolidation de la paix et de recherche sur l'interreligieux. Et qui va aujourd'hui plus spécialement nous parler d'un programme autour du leadership féminin pour la paix. contre le terrorisme et les extrémismes, et qui est une sorte d'interface, de plateforme qui fait émerger ce type d'expérimentation pour mutualiser les bonnes pratiques en matière de construction de paix. Merci.
Merci. Je remercie la chaire Culture, Société et Faits religieux, ainsi que la Fondation Maison des Sciences de l'Homme pour cette occasion de vous présenter donc ce projet, Leadership féminin pour la paix contre le terrorisme et les extrémismes religieux, dans lequel le centre auquel je participe, centre Morocco Interfaith Peacebuilding, qui est dans le cadre de l'Arab État des Ulémas, s'est impliqué depuis septembre dernier. Et c'est une question qui nous tient à cœur. C'est un engagement pour la cause des femmes, mais c'est aussi, bien sûr, la question de la prévention des conflits à caractère religieux sur lequel nous avons mis le focus. On vient de le voir dans la présentation qui nous a été faite par Raphaël. Les femmes sont très souvent au cœur de la cible de l'extrémisme religieux. Nous ne le savons que trop dans différentes régions du monde. Et elles se trouvent au centre de la stratégie d'embrigadement de ceux qui souhaitent les transformer au service de leurs objectifs, tout simplement en objet, en esclaves, esclaves sexuels ou en bombes vivantes pour un certain temps, dans les attentats suicides. Donc, nous avons souhaité aborder la recherche dans ce domaine sous l'angle de l'approche genre, parce qu'elle suscite de plus en plus l'intérêt des analystes et des certains laboratoires, des programmes de recherche, mais pas encore de façon systématique, souvent de façon isolée. En ce qui concerne les femmes musulmanes engagées dans les zones ou les terrains de combat armé, les analystes observent que le mouvement de sortie, le mouvement de départ, si je puis dire, tout à fait décomplexé, revendiqué, démarre aux alentours de l'année 2013. Et il est alimenté par des prédications qui prônent une violence légitimée sur le plan religieux, donc d'où les départs vers les terrains du terrorisme. Et ces prédications sont souvent à l'origine de la mise en réseau de très jeunes femmes qui se revendiquent d'un islam extrémiste. Leur présence sur le terrain est parfois très visible, complètement assumée, revendiquée, que ce soit dans les réseaux de soutien ou carrément sur les champs de bataille. Donc, les trajectoires extrémistes violentes se caractérisent souvent par des idéologies de rupture, des motivations socio-religieuses, mais aussi des mécaniques psychosociales de basculement. Et les discours sont très souvent binaires. Alors, au-delà des connaissances scientifiques qui ont été rassemblées jusqu'ici, il reste des motivations, des profils qui nous échappent d'une certaine manière et qui déstabilisent un peu certaines théories analytiques. Donc, il nous a semblé pertinent d'approfondir le sujet et de répondre au manque de communication et de mutualisation des données. Donc, voilà, nous nous sommes impliqués dans ce projet de leadership féminin pour permettre justement à des réseaux comme la plateforme qui vient de nous être présentée en Casamance et d'autres, avec un focus donc sur la région MENA, Middle East North Africa, mais aussi le Sahel qui est tout à fait affecté par les conflits violents depuis plusieurs décennies. Donc, d'une part, de permettre une mise en réseau des personnes, mais aussi pour pouvoir mutualiser les connaissances et les recherches. Alors, nous avons été soutenus par l'ambassade de Grande-Bretagne. Il y a eu un premier séminaire qui rassemblait des personnes du Maroc et de Grande-Bretagne dans un premier temps. Ensuite, nous avons élargi une conférence internationale qui a eu lieu le mois dernier à Rabat. Et il y a aussi un volet recherche dont je vais vous parler rapidement, qui est soutenu justement par ONU Femmes dans le contexte qui a été présenté par Raphaël tout à l'heure. Nous avons souhaité aussi, cela nous a semblé essentiel, rassembler des femmes d'horizons divers, non seulement des universitaires engagées dans la recherche, mais aussi des actrices associatives, des militantes. Et j'en parlerai rapidement. Tout à l'heure, je vais faire un petit retour sur une question qui a été soulevée à la fin du panel précédent et sur la focalisation du débat sur le religieux. Je voudrais simplement souligner, par rapport à cette focalisation, il me semble, en tant que chrétienne vivant au Maroc depuis plus de 30 ans, qu'il y a une vraie focalisation sur une radicalité qui aujourd'hui occupe beaucoup les esprits, qui est celle du djihad, etc. Mais je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, et nous avons essayé de le faire dans la mesure du possible au cours de notre conférence. Dans l'histoire relativement récente, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des radicalités qui concernaient d'autres religions. On peut parler du conflit irlandais, qui a quand même duré, dont on peut dire que nous pouvons dire que nous venons de sortir de ce conflit irlandais. Personnellement, je peux dire que je suis de confession protestante. Je suis française par ma mère, américaine par mon père, et ce n'est pas au niveau anecdotique que je parle, mais je pense que c'est important. J'ai pris conscience du fait que ce qui m'a été transmis par ma mère, protestante française, d'une communauté qui rassemble moins de 2% de la population française aujourd'hui, mais qui reste dans une position de minorité issue du conflit des guerres de religion qui remonte à il y a plusieurs siècles, ce qui m'a été transmis dans son vécu, dans sa manière de pratiquer la même religion que celle de mon père, qui était un Américain, donc white, anglo-saxon, protestant, qui était d'une église tout à fait mainstream, les choses étaient vécues très différemment. Et donc, oui, il y a la question de la focalisation sur le religieux, mais il y a aussi la focalisation sur un certain religieux. Et je pense que, je n'ai pas vraiment regardé l'heure en démarrant, mais je vais prendre encore une... Voilà, c'est ça. Je voulais dire que au centre auquel je participe, nous essayons justement de prendre un peu de hauteur, si je puis dire, d'avoir une vision un peu plus large. Et quand il s'agit, on parle beaucoup aussi de dialogue entre les religions. Personnellement, la formulation ne me convient pas tout à fait parce que les religions ne dialoguent pas, ce sont des personnes qui dialoguent. Et chacun, dans sa propre religion, dans sa propre conviction, peut se positionner différemment. Et ce qui m'a, au cours du colloque, nous avons vraiment porté l'attention à réunir des personnes de confessions différentes, mais aussi sortir du cadre strictement religieux. Et nous avons invité un philosophe iranien qui vit aujourd'hui entre New Delhi et Toronto. Et En Inde, il est à la tête d'un centre Mahatma Gandhi sur la non-violence. Il a posé une question très simple, mais qui est très pertinente. Que faites-vous de votre foi ? Donc, on peut sortir aussi de la focalisation sur la confession, la croyance, pour entrer dans une démarche plus active et moins essentialiste aussi par rapport à la religion. Il y a un volet que je ne prendrai pas le temps d'aborder dans le détail par manque de temps, mais je vais juste, puisque j'ai parlé de la recherche qui va être financée par ONU Femmes, je vais juste vous donner les titres des trois recherches qui vont être entreprises avec ce soutien. Il y aura donc différents chercheurs et chercheuses vont travailler pour produire une radioscopie des dynamiques des femmes et du leadership féminin engagé pour la paix. Une autre équipe travaillera sur la consolidation de l'expertise du leadership des femmes engagées sur les questions de la paix par une meilleure connaissance des mécanismes de la radicalisation. Et le troisième thème, c'est l'engagement des femmes dans la prévention, justement, des conflits. Je vous remercie.
Voilà, donc selon le mode opératoire désormais connu, nous allons passer la parole à la salle. Et donc je vais prendre peut-être trois questions et puis les intervenants vont répondre. Il y a une question là.
Bonjour, je m'appelle Bakary Samb, Timbuktu Institute, Université Gaston Berger, Sénégal. Nous avons travaillé un peu sur la question du rapport entre les femmes et la question des conflits et de l'extrême violence, notamment au Mali et dans d'autres pays du Sahel. C'est vrai que très souvent, j'avance l'idée selon laquelle les femmes auraient une longueur d'avance sur la question de l'extrémisme tout court, lorsque l'extrémisme n'était que l'extrémisme religieux. Dans les années 90, il n'y a que les femmes qui se préoccupaient beaucoup de cet extrémisme parce qu'elles en étaient les victimes lorsque cet extrémisme religieux menaçait leurs droits, restreignait leur liberté, etc. Il n'y avait que des femmes, des mouvements de femmes, beaucoup en tout cas, qui manifestaient contre l'extrémisme. Les États, en tout cas, les politiques ont attendu que l'extrémisme devienne un facteur de violence, l'extrémisme devienne une question sécuritaire pour commencer à le gérer. C'est d'ailleurs, on le voit toujours dans la manière dont l'extrémisme est géré, toujours avec l'approche sécuritaire, ça vient de cela. C'est-à-dire que les politiques ont commencé à s'occuper de l'extrémisme lorsque cet extrémisme est devenu un enjeu sécuritaire. Maintenant, ce rôle des femmes dans la prévention, on le voit, etc. Mais parfois, dans la consolidation de la paix, dans certaines communautés, il y a un rôle assez positif. Mais aussi, à partir des années 2015-2016, on a vu le tournant majeur, notamment chez Boko Haram, où des femmes ont commencé à être des actrices, hein, pas seulement des victimes. On oublie souvent leur statut d'actrice. On se focalise beaucoup sur leur statut de victime, actrice autant de paix, hein, parce que aussi dans les négociations, quand on voit le travail qu'une pasteur dans la région de Jos au Nigeria en train de faire dans le dialogue interreligieux, mais si on oublie leur statut d'actrice de paix, mais aussi parfois de violence, comme étant kamikaze, comme dans le cas de Boko Haram. L'autre aspect, et j'aimerais bien savoir pour ce qui est de la Casamance et des autres zones qui ont été mentionnées, s'il y a eu des expériences sur cela. Ça concerne le Niger. Au temps de la rébellion, les femmes ont été pour beaucoup, à cause de l'engagement de beaucoup de jeunes et d'hommes. Chez les Touareg, par exemple, était courant dans la région d'Agadez, Aderbissana, Tchirozérine, toute la région d'Agadez. Parfois, c'est des femmes qui disaient à leur mari, qui leur servaient le repas, et qui leur disaient, ben oui, tu veux manger, ben mange pendant que les vrais hommes sont au front. Et ça, quand on dit à un homme « mange », pendant que les vrais hommes sont au front, c'est une incitation aussi à la violence. Je veux savoir si, dans le cadre du conflit casamancé, quel était le rôle des femmes? Est-ce que les femmes ont eu un rôle dans l'engagement de certains? Et comment ça s'est culturel? Est-ce que c'était avec des ressorts culturels, etc.? Voilà, merci.
Merci. C'est surtout, j'ai une remarque quand Madame nous dit pour la dernière intervenante, Madame Marie Thuisen, que le dialogue interreligieux est quasiment impossible parce que chacun est dans son cocon, dans sa tour d'ivoire. Moi, je crois que c'est assez tranché. Les efforts qui se font depuis des années et surtout souvent également depuis longtemps, il y a toujours des deux côtés de chaque religion l'existence de ponts, de passerelles qui peuvent servir également au dialogue. Donc le fait donc de dire que il ne peut pas y avoir de dialogue entre religieux, je trouve que c'est assez tranché. Ça c'est d'une part. Pour ce qui est des femmes au niveau de leur leadership, nous avons une particularité. La société arabo-berbère sahélienne, la femme a un leadership dans le social. Elle est quasiment une cheftaine. Ils ont assez d'autorité, assez d'influence sur les hommes. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que... De l'autre côté, il y a cette ressemblance pour essayer un peu d'encadrer les hommes en cas de violence. Je vous remercie.
Oui, bonjour, c'est Saïdé Diamilian. Moi, j'ai une question qui rejoint un peu celle de Bakary. Parce que récemment, il y a une actualité. Bon, là, on sort un peu de l'Afrique. Mais en France, on parle beaucoup de retour des djihadistes, de rapatriement de ceux qui sont engagés auprès de Daesh. Et il y a une question qui s'est posée, qu'est-ce qu'on va faire de ces femmes qui étaient considérées pendant des années comme des victimes, alors qu'il s'avère qu'elles peuvent aussi être actrices. Et on a des exemples nombreux pour ne pas allonger la question. Du coup, j'aimerais avoir votre regard sur ça. Est-ce qu'il faut traiter les femmes actrices comme des femmes ou bien comme des actrices qui ont commis des actes de terrorisme? L'autre question, bon, qui est peut-être d'ordre un peu plus philosophique, parce que là, j'aimerais savoir quelle est l'explication quant au fait que quand les femmes s'engagent dans les processus de paix, il y a plus de réussite. Est-ce que ça nous renseigne sur la faiblesse des hommes? Ou est-ce que ça ne rompt pas avec le discours égalitariste auquel nous tenons tous, qui consiste à dire qu'on est tous égaux? Parce que si on dit que les femmes, quand elles s'engagent, ça marche plus, est-ce que dans ce cas, on ne va pas faire appel à des lois naturelles qui font que les femmes sont plus sensibles, plus gentilles, plus quoi? Parce que parfois, c'est un peu contradictoire en fait, avec le discours militant. Merci.
Merci, pour la question du docteur Bakary, je vais répondre en une seule par rapport aux deux questions qu'il a posées. Le rôle des femmes dans la prise de décision d'aller à la guerre. En effet, les femmes, comme les hommes, se sont engagées pour aller à la guerre, pour réclamer l'indépendance de la Casamance. Parce que comme leurs hommes, les femmes ont souffert de certaines frustrations. Il y a aussi l'histoire qui plus ou moins a été déformée par les intellectuels qui ont présenté l'histoire de la Casamance, de la colonisation, le passage des Portugais en Casamance, et également cet enclavement de la Casamance complètement au sud du Sénégal, coupé du reste du Sénégal, où l'administration centrale n'était pas tout à fait présente. Et donc les femmes se sont engagées avec leurs hommes pour demander l'indépendance de la Casamance. Elles y sont allées avec leurs hommes. Et donc en 82, elles étaient des actrices, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais vers les années 90, les violences sont devenues plus acerbes. Et les femmes ont souffert à partir de ce moment, à partir de 90, de toutes les formes de violence, allant du viol, le viol avec des objets, les tueries, l'assassinat, la délation, les femmes qui sont allées en prison, etc. Donc, à partir de ce moment, les femmes ont pris conscience qu'elles étaient désacralisées. Et il y a eu une deuxième prise de conscience et les femmes ont dit, oui, nous sommes d'accord pour l'indépendance, mais demandons l'indépendance d'une autre manière. Et à partir de ce moment, elles se sont engagées dans la résolution de la crise par des formations, en partageant des formations avec les femmes rurales, par la sensibilisation et par des actions, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui ont amené les femmes aujourd'hui, elles sont debout pour le retour de la paix en Casamance. Et elles s'y sont engagées et elles travaillent avec force sur cette question-là. Évidemment, il y a des femmes encore qui restent des femmes du MFDC. C'est difficile d'accéder à ces femmes-là, mais nous continuons la sensibilisation pour qu'elles reviennent à un autre sentiment, à une autre forme. Nous, ce qui nous importe, nous, plateforme des femmes pour la paix en Casamance, c'est le retour de la paix. Maintenant, ce qui va être dit à la table de négociation à laquelle nous nous comptons prendre part, parce que, étant victimes de ce conflit armé-là, nous avons nos préoccupations qui sont des préoccupations des femmes. Et personne ne saurait les dire mieux que nous-mêmes. Et donc, nous comptons prendre part aux négociations-là pour poser nos problèmes de femmes. Et ce qui importe pour nous, qu'est-ce qui va sortir de ces négociations? Est-ce que c'est l'indépendance de la Casamance ou pas? Ça ne nous importe pas beaucoup. Ce qui compte pour nous, c'est que la paix revienne dans notre région et que les populations vivent tranquillement. La décision de l'indépendance ou pas revient aux deux parties qui sont allées en guerre. Et ensuite, il y a eu la question également du docteur Djamil qui demandait, c'est surtout à vous que cette question-là, à vous-même, que cette question-là a été posée, l'engagement des femmes. Lorsque les femmes s'engagent dans la résolution d'un conflit, il y a beaucoup plus de chances de réussite. Chez nous, par exemple, c'est parce que les femmes sont indépendantes. Indépendantes au plan économique et indépendantes également aux prises de décision. Chez les femmes, en Casamance, chez nous, les femmes ont leur bois sacré et les hommes ont leur bois sacré. Et certaines décisions, par exemple, même pour l'initiation, c'est les femmes. Ce sont les femmes qui prennent la décision de l'initiation. Et ensuite, les guerres, les hommes continuent le travail pour retenir la date et comment ça va se faire. Mais la décision vient des femmes. Certaines décisions dans nos communautés sont prises par les femmes et tout le monde est obligé de respecter la volonté des femmes. La femme a un rôle sacré en Casamance.
Je vais répondre très rapidement parce que je crois qu'il y a eu un malentendu. Je voyais tourner l'heure et peut-être que je suis allée un peu vite. Je n'ai pas été bien comprise. Je n'ai pas dit que le dialogue est impossible, pas du tout. C'était juste au niveau des termes utilisés. Je préconise, je préfère parler de dialogue entre personnes, entre chrétiens, musulmans, par exemple, ou etc., que dialogue des religions. Parce que la religion, c'est une abstraction. Et les abstractions, elles peuvent dialoguer, mais je pense, et c'est pour ça que je soulignais par exemple que, en ce qui concerne ma famille, l'héritage paternel et l'héritage maternel sont différents. Pourquoi ? Pour dire que chaque individu se positionne différemment et qu'il ne faut pas essentialiser les religions ou les croyances, les philosophies, les unes par rapport aux autres. Mais le dialogue, bien entendu, il est non seulement il est possible, mais il est absolument indispensable. Donc j'espère avoir clarifié ce point. Merci.
Merci. Oui, moi j'allais dire aussi, il ne faut pas essentialiser, et on ne cherche pas à essentialiser les rôles genrés au sein des sociétés, et quel qu'il en soit, et c'est pour ça qu'on appelle à ces projets de recherche qui prennent en compte les différents rôles des hommes et des femmes et en différentes fonctions. C'est la première question qui a été posée. Dans le rôle des femmes actives, oui, les femmes sont actives dans des conflits, dans des actes de terrorisme ou d'extrémisme violent, dans le recrutement, dans la gestion, mais en parallèle, même quand elles sont actives, elles subissent des stéréotypes de genre qui fondent ces systèmes, mais ces systèmes qui finalement sont issus des sociétés patriarcales dans lesquelles il y a une violence aussi quotidienne, qu'elle soit sociale, culturelle, économique, politique, etc. Donc c'est pour ça que ce qu'on essaye aussi de promouvoir, c'est, j'ai entendu, soit un homme, c'est aussi un travail sur les masculinités, parce que pendant des décennies, dans le mouvement féministe, s'est concentré sur les femmes, sur le fait que les femmes devaient faire changer la société, aussi sur la culpabilité des femmes, parfois, dans leur rôle de mère, où elles transmettraient ces stéréotypes de genre, et où on essaye de plus en plus de travailler avec les hommes sur les masculinités, parce qu'il faut déconstruire tout ça tous ensemble, et que chacun puisse prendre une place nouvelle dans un processus plus équilibré. Et aussi, donc, ces processus de construction de la paix, ce ne sont pas des processus exclusivement féminins dont nous parlons, c'est quand les femmes sont impliquées. Tout simplement, pas parce que la femme, par nature, serait plus à l'écoute ou plus pacifique, mais parce qu'il faut que ces processus reflètent les sociétés pour lesquelles elles développent des solutions, tout simplement, en fait. Donc, si c'est une assemblée d'hommes qui, entre eux, prévoit des solutions qui vont s'appliquer à l'ensemble de la société, ça fonctionnera moins que si des femmes et des hommes sont autour de la même table, et des femmes et des hommes dans toute leur complexité aussi, hein, avec des différences de langue, de culture, d'origine, pour pouvoir trouver ensemble une solution qui s'applique à tout le monde. Je pense que c'est aussi simple que ça d'être dans des processus inclusifs, participatifs et démocratiques. Après, votre question sur le retour des femmes, ça c'est éminemment sensible et politique, notamment... En ce moment, il y a plusieurs pays qui sont au centre de débats et qui adoptent des solutions différentes. Et la question des enfants aussi, évidemment. Nous, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de défaut de justice et que les pays de citoyenneté ont une responsabilité à assumer, une responsabilité verticale par rapport à leurs citoyens et à leurs citoyennes. Après, le débat reste... sur chaque politique nationale et le choix de justice qui sera fait dans chaque État.